Bonjour à tous. Un bon temps de louange. Merci à toute l'équipe de louange. Vraiment un bon temps à adorer Dieu. Merci le Seigneur. Un temps de louange est un temps, il y a un temps de prière dans les louanges, comme les psaumes. Il y a des temps de louange où on adore Dieu. Il y a des messages passés à travers les chants, comme les psaumes, comme on a vu dernièrement. C'est vraiment un bon temps où on peut se concentrer sur Dieu et louer Dieu. Eh bien, vous savez, certaines émotions sont bien agréables. On s'entend là-dessus. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas évidents. Parlez-moi de certaines émissions là, qui sont pas toujours agréables, disons. Hein? Comment? L'ennui? Oui. D'autres? Le deuil, oui, ça c'est difficile, absolument. D'autres? La peur. Eh bien, absolument, l'inquiétude, la peur. On s'inquiète tous par moments, certainement, on arrive à des moments où on va tous s'inquiéter. D'ailleurs, j'ai lu une étude qui a été menée par un chercheur de l'Université d'Harvard récemment. Puis, il disait, c'est vraiment fascinant, apparemment, on passerait 12, et en passant, il a fait une grosse recherche là-dessus, une étude assez sérieuse, il a écrit un livre qui s'appelle « Stumbling on Happiness », alors « Trébucher sur le bonheur », fait une grosse découverte, et il a dit qu'on passerait 12% de notre journée à penser à l'avenir, puis à se demander qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. 12%, imagine-toi, ça c'est à toutes les 8 heures, on pense à l'avenir. Et ça, c'est souvent ce qui nous cause de l'inquiétude. On est en train de penser à l'avenir, on se demande ce qui va se passer. On connaît pas l'avenir et on est préoccupé. Tous et chacun, là, on pense à l'avenir, on s'inquiète souvent de certaines choses. Et c'est tout à fait, c'est une des choses qui certainement est un ennui. C'est difficile de faire affaire avec la peur et l'inquiétude. Et c'est lourd, c'est un fardeau l'inquiétude. Eh bien, on va regarder justement quoi faire devant l'inquiétude. Entre autres, on va vraiment nous arrêter sur cette question-là, alors qu'on a commencé une série sur les armes du chrétien. Et on va se servir de l'inquiétude pour voir un peu faire un exercice ensemble, ça va être un peu une mise en situation, mais qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres domaines et toutes sortes de domaines d'ailleurs. On a commencé, comme vous savez, dernièrement, une série de messages sur les armes du chrétien, un passage très important, qui arrive vers la fin de la lettre aux Éphésiens. On a fait une longue série à travers la lettre aux Éphésiens qui nous parle de notre nouvelle identité maintenant, cette nouvelle identité que nous avons maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, tous ceux et celles qui sont venus à Jésus-Christ par la foi, qui se sont convertis, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, sont une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Et maintenant, nous avons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus les mêmes. C'est pas qu'on est parfait, évidemment, Mais bien des choses ont changé. Premièrement, nous avons une nouvelle famille. Nous avons été adoptés dans une nouvelle famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a tout un héritage qui attend les enfants de Dieu. Nous avons été justifiés avec Dieu. Donc, la lettre aux Éphésiens nous décrit vraiment ce que nous sommes maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Et là, Paul va arriver, aboutir, et va clore sa lettre sur une longue section qui va parler de cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes tous impliqués. Qu'on le veuille ou pas, on est dans une guerre spirituelle. Nous avons un ennemi, le diable, avec tous ses démons qui cherchent à nous ralentir, nous empêcher de devenir tout ce que l'on pourrait devenir maintenant que nous sommes un enfant de Dieu. Il veut nous nuire, il veut nous décourager, nous faire tomber, il veut semer du doute en nous. Et nous sommes en train de regarder justement le chapitre 6 parce que Dieu là nous donne les armes du chrétien dont on peut se servir pour justement faire face aux assauts de l'ennemi et comment mener une vie victorieuse. On veut tous mener une vie victorieuse, n'est-ce pas? On s'entend là-dessus. Eh bien, nous avons les armes ici qui nous sont disponibles et que nous avons maintenant que nous sommes en Jésus-Christ et ils sont décrits dans Éphésiens 6. Donc, si vous voulez bien, on va juste se courber un moment dans la prière et ensemble, on va lire un passage dans Éphésiens, ce passage qui parle des armes du chrétien. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous arrivons ici avec notre histoire. Il y a des gens ici ce matin qui arrivent avec un cœur lourd. Déjà même ce matin, Seigneur, on rencontre des gens qui arrivent avec un cœur pesant, lourd, avec un fardeau, préoccupé. D'autres arrivent avec d'autres histoires, une histoire de joie et de victoire. Seigneur, tu nous prends où nous sommes et tu viens nous rencontrer par ton esprit. Et ce matin, quels que soient les besoins que nous pouvons rencontrer, chacun ici, auxquels nous devons faire face, que ce soit des épreuves, que ce soit des bénédictions, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on te prie que tu puisses nous rencontrer, parler à nos cœurs. Certains parmi nous, nous avons besoin d'être exhortés à passer un pas de foi, à franchir une étape dans notre vie chrétienne pour avoir d'autres victoires. D'autres personnes ont besoin d'apprendre à mieux te connaître. D'autres personnes ont besoin de soulagement, de consolation. Eh bien, Seigneur, nous te remettons cette rencontre ce matin et nous prions que ton esprit œuvre dans nos cœurs. Et nous te remercions à l'avance pour ce que tu vas faire, parce que nous croyons que tu es ici parmi nous et que tu veux accomplir une œuvre. Alors, on te remercie à l'avance pour l'œuvre que tu vas accomplir dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses soutirer toute la gloire de cette matinée. Nous voulons mener une vie qui te donnera de la gloire, Seigneur, dont tu seras fier et heureux. Alors, Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir ce temps ce matin, alors qu'on se penche sur cette portion des Écritures ensemble. Que ton esprit nous parle, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, alors Éphésiens chapitre 6. Nous avons commencé à lire chapitre 6, verset 10. On va aller un peu plus loin ce matin, si vous voulez bien, dans notre lecture. On va vous présenter, dans le fond, toutes les armes. Et ça, c'est l'image que Paul avait. C'est un peu l'image du soldat romain. Paul était en prison, était enchaîné, était en prison. Et c'est pour ça qu'on appelle les lettres de Paul. C'est quelques lettres, les lettres de prison, en quelque sorte, parce que Paul voyait tous les jours ces soldats romains qui se promenaient. Autour de lui, qui gardait finalement la prison et tout l'Empire romain. Ils étaient un peu partout, il y avait des milliers. Pendant que nous allons lire la description des armes du chrétien, il faut avoir cette image-là en tête, c'est ça que Paul voit tous les jours, et il s'inspire vraiment des soldats romains pour décrire ici ce qu'il en est. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alors, verset 12, 6, 12. Éphésiens 6, 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. On va arrêter notre lecture juste ici, si vous voulez bien. Alors, Paul prend un langage militaire. Il était, comme je le disais tantôt, entouré vraiment de soldats romains. Il y a une raison pour ça, et c'est probablement parce que le soldat romain est la meilleure métaphore qu'on pouvait se servir, que Paul pouvait se servir, vraiment, qui montre le sérieux et la vraie nature de la vie chrétienne, et comment se défendre contre les ruses et les manœuvres du diable afin de ne pas être vaincu. Verset 11 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. L'armure du chrétien, en fait, est le symbole des bénéfices et des privilèges de l'Évangile. Depuis que nous sommes devenus un enfant de Dieu, lorsque nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, nous sommes devenus un enfant de Dieu, et de là, on a un tas de privilèges comme enfant de Dieu. Alors, quand Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », il est en train de nous dire « Servez-vous des privilèges et des bénéfices de l'Évangile et utilisez-les pour refaire votre perception de la vie, de vous-même, de la vision du monde, votre vision de Dieu et des personnes qui vous entourent. » Et d'ailleurs, on l'a vu à travers la lettre aux Éphésiens, dans toute notre série, comment l'Évangile affectait même nos relations, même dans le mariage. Ça a un impact même dans notre éducation avec les enfants. Ça a tout un impact, des incidences, le fait que nous sommes venus à Jésus-Christ. Maintenant, un jeune chrétien va s'asseoir. Et quand on vient à Jésus-Christ, on a un paquet de questions. Moi, je me rappelle, lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais tellement de questions. Et là, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de toi, qui a plusieurs années dans le Seigneur à côté de toi, qui va s'asseoir, et là, tu lui poses des questions. Et la personne à côté de toi, qui a plus d'années que toi, va te répondre. Et elle va répondre en fonction de la parole de Dieu. Et ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de te donner une nouvelle vision à laquelle tu t'attendais pas et que tu avais aucune espèce d'idée existait. Et te donne une perspective complètement différente et qui est appuyée, qui est basée sur la révélation que Dieu a donnée à travers les Écritures saintes. Et dans le fond, ce chrétien mature, ce qu'il est en train de faire, il est en train de lui dire à ce jeune chrétien de mettre son armure. Mettre son armure est de prendre les bénéfices de l'Évangile et de commencer à s'en servir, de commencer à se servir des privilèges que nous avons comme enfants de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'armure? Quelle est l'armure? Eh bien, verset 14, et on va commencer avec cette première pièce de l'armure. On va continuer dans les prochaines semaines, dans deux semaines en fait. La semaine prochaine, je m'en vais prêcher à Castleman. Je vais être avec vous dans deux semaines. La semaine prochaine, notre frère Alex va venir apporter le message. Mais le verset 14 dit ceci, « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. » Donc, ça parle de ceinture. La ceinture du soldat ici. C'est la première pièce de l'armure qui est la ceinture de vérité. Maintenant, le soldat romain avait une ceinture. C'est un détail important à souligner. C'est que la ceinture, c'est pas vraiment une arme. Tu te bats pas avec la ceinture. Tu te défends pas avec la ceinture. Tu attaques pas avec la ceinture. Mais si t'as pas de ceinture, t'as pas les autres armes. Toute l'armure s'accroche à la ceinture. Et non seulement ça, tu es très vulnérable si t'as pas de ceinture. Parce que voyez-vous, en hiver, le soldat romain, il avait une tunique longue pour se réchauffer. Alors imaginez ne pas avoir de ceinture alors qu'il y a quelqu'un en avant de toi qui veut te tuer. Et là, tu dois livrer un combat, tu amorces le combat, et si tu n'as pas de ceinture, tu es très vulnérable, la tunique vole partout et tout ça. Dans le fond, ça devient même un danger pour toi, une question même de vie ou de mort, la fameuse ceinture. Donc, la ceinture te protège. Alors, ce que le soldat faisait en hiver, lorsqu'il amorçait le combat, il prenait cette tunique qui était très longue pour se réchauffer, et il la rentrait dans la ceinture, et de cette façon-là, il était prêt à se lancer à l'assaut de son ennemi pour se défendre contre les assauts et contre la mort. Donc, la ceinture était très importante, c'était vital. Et Paul commence avec la ceinture de la vérité parce que c'est auprès de cette ceinture, c'est à cette ceinture que tout le reste, l'armure, va s'accrocher. Donc, c'est vital, c'est le fondement. Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la vérité, la parole de Dieu, de façon générale, toute la parole de Dieu, c'est notre ceinture auquel va s'accrocher nos pensées et tout le reste. Voyez? Et ça, c'est majeur. C'est la première pièce de l'armure. Depuis le début de sa lettre aux Éphésiens, Paul est en train de nous dire que la vérité, c'est vraiment Jésus-Christ. Il a décrit qui on est maintenant que nous sommes un enfant de Dieu. Il a dit que nous avons été adoptés, nous avons été pardonnés, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et ça a un impact, évidemment, dans nos relations avec les autres, tout ça. Nous avons le Saint-Esprit aussi. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit, nous dit Éphésiens chapitre 4. Le Saint-Esprit nous accompagne. Il est avec nous, 24 heures sur 24. Et nous avons maintenant besoin de vivre dans cette vérité-là, de cette nouvelle identité que nous avons. Vous voyez? On a besoin d'entraîner nos pensées, notre cerveau, de renouveler notre intelligence afin de voir Dieu selon la révélation qu'il a donnée de lui-même. Nous avons besoin de voir les autres à la lumière de la révélation qu'il nous a donnée, qui est la vérité. Jésus l'a dit dans Jean 17, hein, ta parole est la vérité. Alors, on est en train de regarder cette pièce de l'armure qui veut simplement dire, dans le fond, c'est de relever nos intelligences afin qu'elles soient conformes à la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on a des pensées, que le diable veut mettre des pensées en nous qui sont erronées, qui sont du mensonge, qu'il sème le doute, nous devons attaquer ces doutes, attaquer maintenant ces pensées erronées à la lumière de la vérité qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Si l'on veut pouvoir tenir ferme, nous dit Paul, nous avons besoin d'ancrer nos pensées dans les Écritures et ne pas se fier uniquement qu'à nos émotions, à nous-mêmes, notre réflexion, nos pensées, pas uniquement, mais tout doit être analysé à la lumière des Écritures saintes. On doit s'ancrer vraiment dans la parole de Dieu. Maintenant, lorsqu'on fait du bateau, il y a une technique pour ancrer le bateau. Tu peux pas juste jeter l'ancre comme ça dans l'eau, puis ça, t'espères que ça va tenir. Non, parce que le courant, parfois, est très fort. Et alors, ce que tu fais, il y a une technique pour ça. Tu vas prendre ton ancre, tu vas te tenir là, en avant, tu vas jeter l'ancre. La personne lance l'ancre à tant de pieds supplémentaires de la profondeur. C'est, mettons que tu as 20 pieds de profondeur, tu vas mettre l'ancre à 40 pieds parce que ton courant va te pousser. Et ce que tu as besoin de faire, c'est de tenir la corde et reculer le bateau jusqu'à temps que ton ancre paralyse et s'ancre. De cette façon-là, indépendamment du courant qui va venir, ton bateau va être stationné là, stationnaire. Il va figer là, il va être ferme. Et donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. On peut pas juste l'écouter, puis s'en aller, puis l'oublier, puis comme si, ah ben car j'ai entendu la parole de Dieu, c'est vraiment bien, etc. Non, non, non. Il faut vraiment ancrer nos pensées et nos vies dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu affecte et influence ma façon de penser, ma façon de voir le monde. Elle doit affecter ma vision des autres et de l'Église. Tout doit être affecté, tout doit être selon les Écritures, selon ce que Dieu nous donne comme révélation. Maintenant, le diable, lui, ce que le diable veut faire, une de ses stratégies, une de ses tactiques de combat, c'est d'essayer de nous faire dériver. Il va mettre du courant, il va essayer de te pousser loin des Écritures, de la vérité. Il va essayer de nous faire tomber par ses ruses. Il va essayer de nous tromper, de nous faire accepter certaines pensées qui sont erronées, que tu vas entretenir. Le diable va même rendre le péché séduisant tranquillement pour te séduire puis t'avoir, pour que tu mordes. Et l'endroit où le diable attaque, c'est vraiment dans nos pensées. Vois-tu, les pensées, c'est vraiment là qui est le leadership, c'est là qui est le leader. C'est le précurseur de toutes nos actions. La façon que tu penses va avoir un impact sur la façon que tu vas vivre. Ça, c'est directement lié, ça. Si le diable peut influencer tes pensées, il va influencer ta manière de vivre. Le reste va suivre. C'est la raison pour laquelle 2 Corinthiens, et on revient avec ce passage-là pour que ça soit bien ancré chez nous, 2 Corinthiens 10, qui dit ceci, « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la reconnaissance, contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Voyez-vous l'impact ici, la façon que tu penses va avoir même un impact, la façon de te conduire, comment même tu vas obéir au Seigneur? Ça commence là, dans tes pensées. Nos actions sont le résultat direct de nos pensées. Si nos pensées sont négatives, ta vie va être négative. Vous et moi, on a besoin de commencer à penser à nos pensées. Tu as besoin de penser à tes pensées. Faut que tu y penses. Pense à tes pensées. Et on a besoin de chercher la victoire. On a besoin d'être victorieux dans nos pensées. Parce que le combat, le champ de bataille, il est là et dans notre pensée, dans nos pensées. C'est là que ça se joue. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire, Norman? Eh bien, prenons un exemple. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est un exemple, mais les principes que nous allons voir à travers cet exemple-là, s'applique dans toutes sortes de domaines de votre vie. D'accord? On va prendre un échantillon Et ça représente vraiment un paquet d'autres domaines. On va prendre l'inquiétude, parce qu'on en a parlé au début de la rencontre, on va parler de l'inquiétude. Maintenant, on va regarder comment la ceinture de vérité fait une grande différence. Maintenant, depuis la chute, depuis Adam et Ève, on a peur. Adam et Ève, avant la chute, n'avaient pas peur. La peur n'existait même pas. Mais depuis qu'on a tombé dans le péché, la peur a commencé. D'ailleurs, une des premières conséquences de la chute, c'est quoi? Lorsque Dieu est allé dans le jardin puis cherchait Adam, Adam se cachait, il a demandé « Où est-ce que t'es? Pourquoi tu te caches? » Adam a répondu « J'avais peur. » Une nouvelle émotion qui est rentrée dans le monde suite à la chute. Peur. L'inquiétude. La chute nous a dérobé de la paix et du repos dans le cœur. Adam et Ève, on serait là, ça serait nous autres, on ne faut pas prononcer la roche à Adam et Ève. On aurait fait la même chose. Maintenant, c'est vraiment intéressant parce que, à la lumière de ça, vu que c'est une des conditions, un des résultats de la chute, c'est la peur et l'inquiétude. Jésus est venu pour restaurer la paix. La paix avec Dieu, mais la paix aussi dans notre cœur. Régler l'inquiétude. Ça, c'est un des fruits de l'Évangile, un des bénéfices, des privilèges du croyant. Jésus comprenait, il savait qu'on avait peur. C'est la raison pour laquelle on va retrouver Jésus dire et redire dans les Évangiles. Il n'arrête pas de dire « N'ayez pas peur ». Constamment, tu vois Jésus dire à quelqu'un « N'aie pas peur ». Il dit aux disciples, n'aie pas peur. Il dit à la femme veuve, n'aie pas peur. Constamment. D'ailleurs, un commentateur est allé jusqu'à dire que Jésus a parlé de l'inquiétude, de ne pas avoir peur. Il a parlé de la peur plus souvent que n'importe quel autre sujet dont il a parlé. Maintenant, je n'ai pas vérifié pour savoir si c'est valide, mais c'est quand même intéressant comme observation. Ce serait intéressant si tu as une recherche à faire. Jésus est venu pour nous libérer donc de la peur. On le voit chez les disciples. Regardez les disciples dans les évangiles, ils ont constamment peur. Et qu'est-ce qui se passe après que Jésus ait été offert à la croix, qu'il est mort pour nos péchés, après qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu, on voit tout d'un coup dans Actes 2 des disciples complètement changés avec beaucoup d'assurance. Ils commencent à annoncer publiquement devant plusieurs personnes, des milliers de personnes, l'évangile. Avec assurance, puis 3000 personnes se convertissent ce jour-là. Et plus ils étaient persécutés, plus on les menaçait, plus ils annonçaient l'Évangile avec assurance. C'est incroyable. Voyez-vous la restauration de la paix et de l'assurance dans le cœur du croyant après la croix? C'est vraiment intéressant parce que les disciples se servaient même des menaces comme opportunité pour emmener l'Évangile. C'est renversant, c'est complètement illogique. Mais voilà ce que Jésus est venu accomplir à travers son sacrifice. Restaurer cette paix, cette assurance dans notre cœur. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ nous libère de nos peurs. Ça fait partie de la restauration de l'Évangile. En Jésus, nous pouvons maintenant avoir la paix dans nos cœurs. Et c'était le message de Jésus-Christ dans Matthieu 11, hein, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans la seconde 21, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Tu veux le repos pour ton cœur, le repos de ton âme, tu vas au Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons aussi dans les Épîtres. « Ne vous inquiétez de rien. » Paul l'a dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Quand on sait ça, quand on sait vraiment, là, et on y croit, quand on sait, là, la peur disparaît. Maintenant, parfois, on ressent une attaque d'inquiétude. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce temps-là? Parce que ça paralyse l'inquiétude. On s'inquiète de ce qui va nous arriver demain, ce qui va se passer. Maintenant, voici l'antibiotique de Jésus-Christ. Quand ça t'arrive? Regardez bien l'antibiotique que va nous prescrire Jésus-Christ pour soigner l'inquiétude. Maintenant, on va regarder ça, là. quelques passages dans Matthieu, d'accord? Matthieu 6. C'est assez long. Soyez patients avec moi. Verset 25, ça dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Regardez bien la solution de Jésus. Il dit, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez combien poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. C'est mieux que du Tommy Hilfiger. C'est mieux que du Calvin Klein. Tu regardes les fleurs, comment c'est habillé, comment Dieu s'en est occupé. Verset 30, ici, Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous. Si tu penses à l'avenir, là. Que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi allons-nous nous habiller? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, tu passes 12% à penser à demain. Pour moi qui le dis, les experts. Tu penses souvent à demain. Qu'est-ce que tu fais? Verset 25, voici la solution. Ne vous inquiétez pas. Verset 26, regarde les oiseaux. Et le mot est intéressant ici. C'est pas juste l'idée de regarder puis voir. Regarde les oiseaux, grâce à... Tu regardes les oiseaux passer, tu continues. Tu sais, sur l'autoroute, tu vois des oiseaux passer, tu ne t'arrêtes pas vraiment, à moins qu'ils soient juste en avant de toi, là, tu ne peux pas rentrer dedans. Mais si tu ne regardes pas les oiseaux vraiment, t'es pas là, alors, c'est-tu vraiment... Il y en a qui sont des observateurs d'oiseaux. Et ce que Jésus est en train de dire, nous avons tous besoin, lorsqu'on est frappé par l'inquiétude, de devenir des observateurs d'oiseaux. On a besoin d'arrêter, puis de regarder, puis d'analyser. Et l'idée de regarder ici, c'est vraiment regarder en réfléchissant, avec une réflexion. Tu regardes un regard méditatif, tu réfléchis. Dans le fond, sur la création, regarde la création. Parce que Jésus ne se limite pas juste aux oiseaux, il va regarder l'herbe, il dit regardez l'herbe. Pas juste regarder l'herbe, il va même dire, le mot grec est vraiment intéressant dans l'original, il dit étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Et le mot étudier est vraiment intéressant parce que dans l'original, c'est pas mal ça que ça dit analyse. Analyse, il ne faut pas juste regarder là. Tu analyses. En d'autres mots, regarde la création. Quand l'inquiétude t'attaque, quand tu te demandes ce qui va se passer demain, regarde les oiseaux, regarde la nature, regarde la création. Maintenant, c'est vraiment intéressant parce que ce bonhomme-là, dont je vous ai parlé au début du service, Daniel Gilbert, qui a fait des grosses recherches à Harvard sur toute la question du bonheur, l'inquiétude et tout ça, arrive à la conclusion qu'on passe 12% de notre journée à penser au lendemain. Il a aussi fait une recherche intéressante, il a découvert ceci, c'est que les animaux ne pensent jamais au lendemain. Grosse trouvaille. Mais c'est vrai, quand tu penses à ça, quand tu regardes un oiseau qui est perché là, sur le fil électrique à côté de chez vous, là, à quoi il pense? Ouais, non, je comprends, c'est peut-être deux de quotient intellectuel, mais quand même, là, à quoi qu'il pense? C'est pas gros, là. Pas gros comme cerveau. Non, mais c'est vrai, je ne vais pas les insulter. Là, à quoi il passe ses journées à penser à quoi? Eh bien, ce chercheur, ce spécialiste arrive à la conclusion, après toutes ses études, ils disent, les animaux ne pensent jamais au lendemain. Il dit, d'ailleurs, c'est ce que nous distingue, nous les êtres humains, parce qu'on n'arrête pas de penser au lendemain. C'est intéressant à la lumière, cette recherche-là, à la lumière de ce que Jésus est en train de dire. Il dit, regarde, si tu t'inquiètes, tu es en train de penser à demain, tu t'inquiètes ce qui va arriver demain, comment tu vas t'habiller, comment tu vas manger, mais il dit, regarde les oiseaux. Les oiseaux ne se cassent pas la tête. Non, il y avait même des oiseaux chez nous, autour de chez nous, ils ont dit, on a besoin d'une maison, alors ils ont décidé de rentrer dans le tuyau de ma maison, ils ont décidé de s'installer là. ne sont pas nerveux, eux autres. On les voit sortir, rentrer, sortir, puis ça, la fan de toilette, puis ça. Ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai ça un autre jour. Beaucoup de frustration derrière tout ça. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, regardez les oiseaux. Lorsqu'on s'inquiète, Jésus dit, ben regarde la création, regarde la nature. C'est vrai, tu regardes la création, mon ami. D'ailleurs, c'est le point que Paul va faire dans Romains. Regardez bien ce que Romains va dire ici. Romains 1, 20, dit ceci. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Maintenant, c'est très étrange ici ce que Paul est en train de dire, parce que dans le fond, ça quasiment l'aide d'une contradiction. Il dit, l'invisible se voit. Parce que c'est ça qu'il est en train de dire. Ça, c'est une technique littéraire, pour ceux qui aiment beaucoup l'étudier et tout ça, ça s'appelle oxymoron. C'est une technique littéraire où tu prends deux mots qui semblent, qui ont une apparente contradiction, mais ils n'ont pas une contradiction. Et ce que Paul est en train de dire ici, est en train de dire ceci, c'est que Dieu est invisible. Il n'y a pas de corps, il y a un esprit, il n'y a pas des os et tout ça. Dieu est invisible. Mais quand tu regardes la création, tu peux voir certaines qualités, certains attributs de Dieu. Donc, dans un sens, tu vois un peu Dieu à travers la nature. Et c'est ce qu'on appelle la révélation naturelle. Il y a une révélation, une certaine dose, une certaine mesure de révélation. Elle n'est certainement pas complète. Elle est complète dans les Écritures. Dieu a choisi de se révéler vraiment dans les Écritures saintes. Et ça, c'est la révélation écrite. Mais quand même la personne qui n'a pas de Bible regarde la création, puis elle voit cette révélation naturelle, on peut tirer une certaine conclusion, on peut savoir, mon Dieu, qu'il y a un créateur derrière ça, on peut certainement faire des points, on peut voir la puissance de Dieu, un de ses attributs, hein, l'omnipotence, on peut voir que Dieu est créatif aussi, tu vois les milliers, ma femme est allée acheter des hostas hier pour en avant de chez nous, puis tout ça, puis j'ai découvert qu'il y avait 1000 sortes d'hostas. Hey, c'est-tu assez fort, ça, c'est une sorte de plante, là. Dieu est créatif. Dieu, c'est incroyable ce qu'il fait. Alors, on peut voir certains attributs, certaines qualités de Dieu à travers la création. On va apprendre qu'il est créatif, c'est un artiste, il est puissant, certainement. Et c'est le point ici de Paul. Paul est en train de dire, dans le fond, c'est que personne n'est sans excuse pour ne pas croire en Dieu ou certainement pousser la recherche pour mieux le connaître, juste en regardant la création. Ça, c'est le point dans Romains qu'il est en train de faire. L'argument de Paul ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que la création témoigne de la puissance de Dieu. Mais si elle témoigne de la puissance de Dieu, de sa nature divine, nous dit Romains, elle témoigne d'une autre affaire aussi, de sa providence, comment il prend soin de la nature. Moi, je pense que je vous ai déjà parlé, j'ai montré ces photos de la tortue de Ridley. Moi, ça m'a fasciné, je vous en parle encore. C'est vraiment fascinant. Est-ce que c'est beau? Oui? C'est pas, hein? C'est pas, c'est ça. C'est pas, c'est oui. Il y en a qui disent oui, hein? Les goûts, hein? Il y en a qui regardent ça et disent, ah, c'est tellement beau. Enfin, la tortue de Ridley. J'en ai déjà parlé, ma femme et moi, on a écouté un documentaire sur l'émission Planète Bleue qui décrit vraiment toute la tortue là, de Ridley. C'est étrange, cette tortue-là est étrange. Par un signal mystérieux du cycle de la Lune, des milliers de tortues vont s'approcher du bord de la mer pour aller pondre leurs œufs. En l'autre temps, ils vont se promener des centaines de kilomètres plus loin. Mais une fois ou deux par année, là, une couple de fois par année, ils vont se rendre et c'est la Lune qui va dicter quand ça donne comme le son de cloche où les tortues vont se déplacer et vont toutes se rendre. Ils vont se rendre là. Un quart de toutes les tortues mondiales de Ridley vont se rendre là, sur cette plage-là, au Pacifique, pour aller pondre des œufs. Écoutez, c'est un phénomène tellement fort qu'on a donné un nom à ça, à ce phénomène-là. Regardez toutes les tortues qui sont là. Ça s'appelle arribadas, un terme espagnol qui signifie l'arrivée. L'arrivée des tortues. Ils vont aller pondre leurs œufs par milliers, des millions d'œufs qui seront pondus. Maintenant, c'est la seule espèce de tortue qui pond de façon synchronisée selon le phénomène lié au cycle lunaire, commençant en général avec le dernier quartier de la Lune. Maintenant, elles vont se rassembler en masse à raison de 5 000 tortues à l'heure, puis ils vont aller pondre 42 millions d'œufs. en 6 jours. C'est phénoménal. Les scientifiques se sont penchés sur ce phénomène-là. Ils ne comprennent pas. Ils ont conclu qu'il y a un mystère ici. Il y a un mystère. Ce qu'ils ont découvert, c'est que le phénomène commence au premier quartier ou au dernier quartier de la Lune. Puis en quelques jours, les tortues vont les pondre des millions d'œufs. Maintenant, ils se sont posé la question, mais pourquoi les tortues se servent du signal du Q, un peu comme un son de cloche, de la Lune pour aller pondre? On a découvert que le lendemain matin que ça arrive, qu'ils sont allés pondre, les vautours arrivent pour aller manger des œufs. Mais les scientifiques ont découvert que c'est au premier quart et au dernier quart de la Lune que la marée est à son plus bas. Donc, les vagues et les courants sont faibles, alors cela protège les œufs et les garde cachés sous le sable de la mer, et la mer reste calme. C'est donc moins de risque pour les œufs de refaire surface puis être mangés par les vautours. Dieu s'occupe même des tortues. Puis nous autres, on est là, puis on se pose la question, est-ce qu'il va s'occuper de moi? Vois-tu, Jésus est en train de nous dire, quand tu t'inquiètes, pense aux tortues. Si tu as une photo, je peux te l'envoyer, là. Pensez aux tortues. Comment Dieu se soucie en détail de mettre un signal, un cue qui donne le feu vert à ces tortues-là éparpillées à des centaines de kilomètres de venir pour les pondre parce que c'est le temps de l'année qu'il faut le faire et c'est le moment où tu seras le plus en sécurité et tes œufs seront le plus en sécurité. Incroyable. Dieu s'occupe même des tortues. Alors, si Dieu s'occupe des tortues, combien à plus forte raison prendrait-il soin de moi qui a été créé à son image et moi qui suis un enfant de Dieu? Il est allé mourir sur la croix pour moi. Si Dieu s'occupe des tortues, il va s'occuper de toi. Est-ce que j'entends des amen? Absolument. Alors, le remède à l'inquiétude, c'est regarde la nature, regarde la création. Et on pense à combien le Seigneur est bon. S'il est bon que les tortues, il va s'occuper de moi et tout ça. Il nous aime, il nous aime. On a beaucoup plus de valeur que de l'herbe, que les oiseaux. On peut donc lui faire confiance et retrouver la paix. Retrouver la paix. 1 Jean 4,18 dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Et on sait à quel point Dieu nous aime. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Plus on pense à quel point Jésus nous aime, au point de se sacrifier pour nous, plus nos émotions vont capter ce message-là, plus la peur va se dissiper, va disparaître. Alors, lorsque le diable sème des pensées en nous et nous incite à nous inquiéter, on a besoin de penser comment Dieu se soucie de nous. Et c'est ce que Jésus nous dit de faire dans Matthieu 6. Pense, réfléchis à tout ce que Dieu a fait pour toi, à ce que Dieu fait, jusqu'à temps que ça l'affecte tes émotions et que ta peur soit soulagée. Porter la ceinture de vérité devant les attaques d'inquiétude. C'est donc corriger nos pensées, nous rappeler que Dieu a promis de s'occuper de nous autres. C'est ça, porter la ceinture. Avoir cette vision de Dieu. Alors, le chrétien se dit à ce moment-là, et c'est ça, porter la ceinture de vérité, je ne vais pas m'inquiéter. Je prends la décision, je ne vais pas m'inquiéter. Je vais plutôt penser à Dieu, qui il est, ce qu'il a fait. Regarde, il prend soin des oiseaux, il prend soin des herbes dans les champs, alors il va certainement prendre soin de moi. Je vaux plus qu'eux. Vois-tu le raisonnement, la réflexion? C'est ça, c'est porter la ceinture de vérité. Alors, je suis créé à l'image de Dieu, je suis un chrétien, un enfant de Dieu, Jésus est mort pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Alors, c'est de cette façon-là qu'on se sert de la parole de Dieu avec efficacité, comme la ceinture de vérité. Voyez-vous ce qui se passe? Porter les armes de Dieu signifie prendre les vérités de la parole de Dieu. Parfois, nos pensées peuvent être ligotées par toutes sortes de pensées, des pensées erronées. Eh bien, la parole de Dieu vient nous libérer, vient dénouer ces pensées-là qui nous rendent captifs. D'ailleurs, c'est ça que dit Jean 8, 32. Il dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » vous rendra libre. C'est ça la ceinture de vérité. On a besoin de prendre la parole de Dieu, l'insérer dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos réflexions, au point que ça fasse partie de nous autres. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer dit ceci. La déception, le mensonge du diable se résume ainsi. Il désire faire croire à l'homme qu'il peut vivre sans la parole de Dieu. Déception du diable, c'est nous faire à croire qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu pour vivre. Mais on a besoin de la ceinture de vérité. Maintenant, comment on fait ça? On croit. On croit, on fait confiance à Dieu. On croit ce que la Bible dit, que la Bible est l'autorité suprême. La Bible a le dernier mot. Là, j'entends tout de suite des gens dire, « Oui, mais Normand, j'ai des doutes. Je doute, j'ai de la misère à croire, j'ai des doutes. » Ce genre de langage, et je passe par là, là, moi aussi, je suis avec vous autres, mais ce genre de langage-là donne, laisse entendre que le doute, est, on est victime du doute. D'accord? Et ça, c'est très important ce qu'on est en train de dire ici. On veut régler quelque chose de très, très important, la question du doute, une fois pour toutes. Là. On a parfois l'impression que nous sommes victimes du doute et il n'y a rien qu'on puisse faire pour se sortir du doute. Moi, j'aimerais vous suggérer que le doute est l'une des tactiques de combat du diable contre nos pensées. Le doute est un choix. Ayant la possibilité de choisir nos pensées, nous devons apprendre à reconnaître le doute quand il se présente et dire « Non, merci. Je choisis de continuer de croire. » Un jour, Jésus a dit, plusieurs fois d'ailleurs, a dit à ses disciples, mais il a dit ceci. Il a reproché ses disciples de douter. Parce qu'il avait vraiment démontré déjà, par tous les miracles qu'il avait fait, tout ça, il n'avait vraiment pas lieu de douter. Il l'avait prouvé bien des fois. Jésus dit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, vous pourriez faire de grandes choses. Jésus dit, si vous ne doutiez pas. En d'autres mots, Jésus nous rend responsables de rester dans le doute. Maintenant, je ne parle pas ici de la personne qui n'est pas encore venue à Jésus-Christ, pose un paquet de questions et veut comprendre ça. Absolument. Il faut faire notre recherche. On n'est pas en train de dire qu'on met notre intelligence là comme au neutre. Au contraire. D'ailleurs, la Bible dit que c'est une marque de sagesse de croire en Dieu. Et Dieu n'est pas gêné dans les Écritures. Il donne amplement d'arguments pour démontrer, et il l'a démontré à travers l'histoire, qu'on peut lui faire confiance. Là, je parle d'un enfant de Dieu, que tu es venu à la foi et tout ça. Là, tu commences à douter, est-ce que Dieu va prendre vraiment soin de moi? Puis tu commences à poser des questions et tout ça. Depuis qu'on est enfant de Dieu, on peut rejeter maintenant le doute. Tu peux choisir de croire et faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné de la foi. Laisse-moi un verset. Laisse-moi vous partager un verset ici. Comme enfants de Dieu, nous avons tous reçu le don de la foi. Romains 12 dit ceci, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, parce que la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Et l'argument qu'il donne, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Maintenant, ce qu'on voit ici, ce qui est bien évident, c'est que Dieu t'a donné la foi. C'est un don, ça. C'est le don de la grâce. Et d'ailleurs, c'est l'argument de l'apôtre Paul. Il est en train de dire, on devrait tous être humbles, tous et chacun. Personne ne devrait vraiment se péter les bretelles ici dans l'Église. Là, parce que si on croit, c'est grâce à Dieu. À quelque part, nous avons reçu, et c'est ce que dit le verset, Dieu nous a donné de la foi. C'est un don de la grâce de Dieu, ça. D'ailleurs, Douglas Moo, qui est un des meilleurs commentateurs sur le livre aux Romains, écrit une grosse brique de 1000 pages de commentaires sur la lettre aux Romains. Il dit la meilleure façon de comprendre ce verset-là, il a fait de la recherche et tout ça, il regarde les arguments pour, etc. Il dit la meilleure façon de comprendre ce verset-là, c'est ceci. Il dit, nous devrions tous être humbles, et la raison est bien simple, c'est que nous avons tous reçu le même don de grâce de la foi. À notre conversion, nous avons tous reçu le même don de grâce de la foi. C'est la raison qu'on devrait être humble. C'est la meilleure façon de comprendre le verset selon Douglas Moo. En d'autres mots, la mesure, c'est la foi. Tu veux te mesurer? Tu veux te mesurer? Tu commences à penser peut-être que t'es mieux ou moins? Bien, repense à ce don-là que Dieu t'a fait Nous sommes tous égaux parce que nous dépendons tous de Dieu. C'est le point ici. Dieu a donné la même mesure de foi à chacun pour notre salut, d'où la nécessité pour chacun d'entre nous de rester humble et pas se vanter. Alors, ce que nous avons tous en commun, c'est la foi qui nous a été donnée par Dieu, selon ce verset-là, selon l'explication qu'on peut voir ici. Comme membres de Christ, nous avons tous cette foi-là. Donc, nous avons la foi. Maintenant, il faut s'en servir. Tu vois-tu? Nous avons reçu le don de la foi. Mais maintenant, il faut s'en servir. Alors, lorsque le diable commence à mettre des doutes et des soupçons et des remises en question tout ça dans ton cerveau, que tu vas commencer à douter de la bonté et la grâce de Dieu, tu as le choix maintenant de refuser ces doutes-là et croire par la foi. Croire. Parce que le doute t'empêche à devenir la personne que tu pourrais devenir. Ça t'empêche d'accomplir ce à quoi Dieu t'appelle. Ça nous empêche de goûter à la paix et le repos qui t'est disponible, qui est là. Et on peut se rendre malade, vraiment, avec les mensonges du diable qui met du doute en nous constamment, qui nous fait questionner la bonté et l'amour de Dieu. Le diable veut voler notre joie, il veut voler notre paix, il veut nous remplir de doute. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le doute? Mais tu as besoin de prendre la décision de croire Dieu, de lui faire confiance. En d'autres mots, crois Dieu. Je vais croire. Je refuse de douter de toi, Seigneur. Je vais vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Dans 2 Corinthiens 10, 5, ça le dit, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Alors, croyons la parole de Dieu. C'est la première chose dont nous avons besoin, c'est la ceinture de vérité, parce que le reste de l'armure va s'accrocher après. Une personne qui est saturée de la parole de Dieu pourra dire, « J'ai pas de raison de paniquer, j'ai pas de raison de m'inquiéter. » C'est arrivé, je regarde dans les Écritures, je regarde la vie de David, je regarde la vie d'Abraham, je regarde la vie de Pierre, je regarde ce qui s'est passé dans leur vie, comment Dieu a témoigné plus d'une fois de sa souveraineté, comment Dieu a pris soin d'eux, comment Dieu était au contrôle de l'histoire, il va faire pareil avec moi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est ça, porter la ceinture de sécurité, la ceinture de vérité. C'est pourquoi on a besoin de lire la parole de Dieu, on a besoin de l'étudier, de la méditer, de la chercher à la comprendre et l'obéir, on a besoin de la mettre en pratique. C'est comme, hein, comme on dit souvent avec ce dicton de Spurgeon qui dit « Si tu as deux Bibles chez vous, lis-en une, mets l'autre en pratique. » C'est ça qu'on a besoin de faire. Au lieu de vivre d'après tes sentiments, tes émotions, d'inquiétude, tu ceins tes pensées, tu portes la ceinture de vérité. Sans ceinture, la tunique du soldat allait dans tous les sens. Et c'était dangereux le combat. De la même manière, nos pensées, lorsqu'elles n'est pas saines par la parole de Dieu, par la ceinture, de la vérité, nos idées s'en vont partout, ils s'en vont, c'est chambranlant, ça va de toutes parts, chaque côté. On a besoin de ceindre, d'attacher nos pensées à la parole de Dieu. Alors, on peut être victorieux. Victorieux en portant la ceinture de vérité. Amen. Eh bien, merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as laissé ta parole. Nous avons ce privilège aujourd'hui d'avoir ta parole qui nous est disponible en abondance. On peut l'avoir même sur les téléphones cellulaires, ta Bible, ta parole. Merci Seigneur, parce qu'elle nous parle de toi. Elle nous fait connaître Dieu. Et Seigneur, ton plan magnifique pour chacun d'entre nous. On voit cela étalé dans les Écritures saintes. On te prie, Seigneur, que tu nous aides maintenant à marcher par la foi, à croire. Lorsque le diable sème du doute, où il veut nous ralentir, nous empêcher de devenir tout ce que nous pouvons devenir en toi, on te prie, Seigneur, que nous puissions retourner à ta parole, chasser le mensonge de nos esprits et croire à ta révélation écrite. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen.